пізніше.
РФІ.
Так, якось...
Grand reportage.
Les forêts sont menacées aux quatre coins du monde. Une des premières décisions du sommet climat de l'ONU hier a été de débloquer des millions de dollars pour l'Amazonie qui brûle. En Europe également, bien des forêts sont menacées. En Ukraine de l'Ouest, par exemple, elle souffre de coupes illégales depuis des années, le bois étant majoritairement destiné à l'exportation vers des États membres de l'Union européenne. Le nouveau président ukrainien, Zelensky, a juré d'y mettre un terme, mais il a aussi promis de développer le potentiel touristique des montagnes des Carpates. Exemple avec ce projet controversé de nouvelles stations de ski. Les montagnes ukrainiennes à l'épreuve du développement économique sauvage. Un grand reportage de Sébastien Gobert.
De sa lourde main, il manie avec souplesse une grille en métal au-dessus du feu. Une dizaine de truites rissolent à la chaleur des flammes, presque prêtes pour le repas. Valérie Pavlouk est ici chez lui, dans un coin de forêt sans réseau téléphonique, au bout d'un sentier quasiment impraticable.
C'est un endroit unique ici que je connais depuis mon enfance. Il faut le préserver pour nos fils et nos petits-fils. La nature est exceptionnelle et l'endroit est inaccessible pour la plupart des gens.
Valérie Pavlouk ne rêverait d'aucune autre retraite que sa petite cabane en plein cœur du massif de Svidovets, dans les Carpates ukrainiennes. Patron d'une scierie dans un village voisin, il aime passer de longues soirées ici, sans âme qui vive, à des kilomètres à la ronde. Un isolement que Valérie Pavlouk et ses amis apprécient d'autant plus qu'il pourrait ne pas durer éternellement. Ici pourraient bientôt se dresser hôtels, restaurants, bars et magasins. Les montagnes de Svidovets pourraient se couvrir de remontées mécaniques et de pistes de ski. Un projet ambitieux prévoit de construire ici une ville de 30 000 habitants, des routes goudronnées et même un aérodrome. Le projet est ancien, mais il s'inscrit aujourd'hui dans la droite ligne de l'ambition du nouveau président, Volodymyr Zelensky.
Les Carpates sont très étendues. Elles présentent un potentiel gigantesque pour devenir les Alpes de l'Europe de l'Est.
Avec un point culminant à 2061 mètres, les Carpates ukrainiennes sont très loin des sommets des Alpes. Mais le projet entend faire de Svidovets un nouveau centre européen du tourisme hivernal. Alors Valérie Pavlouk est mobilisée avec une poignée de militants depuis qu'ils ont eu vent du plan de construction en 2017.
Ce qu'ils veulent faire ici n'a pas de sens. Donc nous nous battons pour que tout reste tel que ça a toujours été.
Pour convaincre du bien fondé de leur lutte, Valérie Pavlouk et ses amis organisent des excursions afin de découvrir Svidovets. Au petit matin, une fois la clairière nettoyée et les braises éteintes, c'est dans un camion militaire de l'époque soviétique que l'on se ferait un chemin sur des routes défoncées. Une fois arrivé sur les sommets, le massif s'étend dans toute sa splendeur, à perte de vue. Pas d'habitation, pas de clôture, pas de traces de civilisation, hormis quelques randonneurs égarés. Au loin s'étendent des forêts primaires, jamais touchées par l'homme. Certaines sont protégées par l'UNESCO.
Parce que je crois que c'est vraiment une région d'intérêt européen, sinon mondial.
Lukas Straumann est un militant écologique et expert anticorruption de Berne, en Suisse.
Ce qui est fascinant, c'est que c'est une des dernières grandes régions sauvages de l'Europe entière, avec des ours, des loups, des lynx, avec le grand tétras, alors vraiment des espèces de forêt, et une manière de vivre de la forêt qui est assez unique.
Lukas Straumann et son organisation Bruno Manzer Funds se sont spécialisés avec succès dans la défense des forêts primaires en Malaisie. Jusqu'à ce que des forêts en Pologne et en Ukraine soient elles aussi menacées. Et
on s'est dit, alors si nous ne pouvons pas protéger les forêts primaires en Europe, on n'a pas le droit, on ne peut pas s'engager vraiment en Asie pour ça. Hein. On a aussi une responsabilité en Europe.
Le risque environnemental serait ici bien réel. Vasil Pokin-Chereda est un biologiste qui a passé de longues années à étudier les forêts primaires des environs.
Обсяги будівництва, масштаби будівництва, звичайно, викликають занепокоєння, тому що для того, щоб таку кількість витягів, таку кількість людей.
Un chantier d'une telle ampleur aura des conséquences dramatiques sur l'environnement.
Cela peut conduire à la dégradation d'un écosystème inestimable et très fragile. Les forêts primaires qui s'étendent au sud du massif de Svidovets peuvent être sérieusement endommagées. Pour la faune et pour la flore locale, l'équilibre sera automatiquement modifié. Et bien sûr, les risques liés à la gestion de l'eau sont très inquiétants.
В першу чергу це буде стосуватись водно-болотних угідь, цих високогірних озер льодовикового походження, такі як
Une campagne s'est donc structurée autour d'un partenariat d'experts étrangers et de représentants locaux. L'un des fers de lance de la lutte, c'est Aurès Del Sol, un Français qui habite dans la région depuis 1992. Il y a développé une ferme et une fromagerie. À travers ses actions pour sauver le massif montagneux des bulldozers, il tente de promouvoir un tourisme alternatif respectueux de l'environnement.
La question, qu'on n'était pas contre ce qui existait déjà. Parce qu'il y a une chose, c'est par exemple, il y a Boucovel, ça existe, une station de ski, c'est pas maintenant le but de la détruire. Et c'est le but de ne pas construire des choses nouvelles qui n'ont plus aucun sens. Il va y avoir moins d'eau et surtout, le problème du changement climatique, il n'y aura pas de neige.
En s'appuyant sur plusieurs études, Aurès Del Sol explique que la position du massif de Svidovets est cruciale pour la région. Il le dit en ukrainien, qu'il parle couramment.
De par son taux d'humidité, le massif de Svidovets est un réservoir d'eau très important pour toute la région. C'est pour cela qu'il faut préserver cette forêt, afin qu'il y ait un approvisionnement d'eau continu.
Le projet prévoit le creusement de larges réservoirs artificiels pour alimenter la nouvelle ville de 30 000 habitants. Un chantier qui perturbera l'équilibre hydraulique de la zone. En pleine forêt, Aurès Del Sol montre une petite source qui s'écoule d'un monument.
Il ne faut pas oublier que ce filet d'eau, la Tisa, ne coule pas seulement en Ukraine. Ça devient une rivière importante qui irrigue la Hongrie et se jette dans le Danube. On ne peut pas dire que le projet ne concerne que trois villages. Cela va affecter des régions au-delà des frontières ukrainiennes.
Le risque est d'autant plus grand que le débit de la Tissa s'est réduit au cours des dernières années, avant même le début de quelconques travaux. Il faut descendre la vallée pour s'en apercevoir. À Tchorna Tissa, le premier village traversé par la Tissa, une habitante, Halina, s'inquiète déjà des conséquences.
Ce projet ne va pas être bon pour la région, en particulier l'écologie. Notre rivière avait un débit très fort il y a quelques années. Vous voyez ce qu'il en reste déjà aujourd'hui. Et les travaux ne vont pas arranger les choses.
Malgré ces craintes d'ordre environnemental, le projet d'une nouvelle station de ski semble en bonne voie. À Ouzhgorod, la capitale de région, le gouverneur Igor Bondarenko mise d'abord et avant tout sur le développement du potentiel touristique.
Svidovets, c'est un bon projet en soi. Les perspectives économiques sont très prometteuses car cela va générer des emplois et attirer des investissements. Les routes seront meilleures, les crèches seront modernisées et tout va se développer. Nous sommes favorables au projet. Aujourd'hui, il est en phase d'étude.
Le discours économique séduit aussi les populations locales. Dans le village de Tchorna Tissa, Natalia Vassilievna en attend même un nouveau souffle pour sa communauté.
Avec ce projet, le village se développerait un peu. Le tourisme, le commerce ou encore d'autres activités apporteraient du travail ici. Parce qu'à l'heure actuelle, nos enfants grandissent sans parents. Ils sont tous partis travailler. En Italie, en République tchèque, en Russie. Les familles seraient réunies. Bien sûr, il doit y avoir des aspects négatifs au projet, mais je n'en sais rien.
Au-delà des aspects environnementaux et économiques, le projet Svidovets se suscite encore une autre inquiétude. Que cette nouvelle ville devienne un petit morceau de modernité dans une région qui souffre d'un manque chronique d'investissement. Alexander Chatalov est un homme d'affaires. Il s'efforce de développer depuis quelques années un centre thermal, une brasserie et une fromagerie.
Pour nous, il est fondamental de préserver l'environnement exceptionnel des Carpates. C'est pour cela que beaucoup de gens viennent dans cette région pour passer du temps dans la nature. Il est très important de développer les infrastructures, en l'occurrence les infrastructures touristiques. Mais les structures importantes qui pèsent sur l'environnement, comme des parkings géants ou des hôtels, ces structures-là doivent être établies en contrebas dans les villes déjà existantes. Pas sur les sommets. Les populations locales sont prêtes pour accueillir ces investissements. Pourquoi construire une ville nouvelle à Svidovets, une ville qui sera isolée, sans lien avec les autres localités, et vers laquelle il faudra acheminer de la main-d'œuvre chaque jour?
En filigrane, les critiques du projet de station de ski redoutent que l'entreprise ne soit qu'une tentative de monopoliser l'industrie touristique de la région au profit de l'oligarque Igor Kolomoïski. Lui est bénéficiaire de la société de développement de Svidovets et son influence indéniable sur l'équipe dirigeante de Volodymyr Zelensky pourrait précipiter le début des travaux. En plus de cet éventuel favoritisme politique, les opposants au projet dénoncent déjà de nombreux vices de procédure. Plusieurs recours en justice sont entamés et des institutions environnementales ukrainiennes et internationales ont été sollicitées. Les militants déplorent notamment le manque de consultations citoyennes afin d'informer les populations locales sur le futur de leur région. À Tchornatissa, peu sont les habitants qui connaissent les détails. Andriy est instituteur, il rentre chez lui en traînant sa vache.
Les ordures, j'imagine qu'elles seront ramassées par les autorités. Je ne sais pas où elles seront traitées, mais il doit y avoir un service pour ça. Pour l'eau, je ne sais pas.
Mais pour lui, difficile d'imaginer des conséquences plus dramatiques que la réalité actuelle.
Des conséquences? Mais regardez autour de vous, la situation écologique est déjà mauvaise. Je suis arrivé il y a 15 ans, il y avait du bois partout. Aujourd'hui, il ne reste rien.
Ce que montre Andriy, c'est une colline dénudée. Et le camion qui vient de passer, c'est un poids lourd chargé de troncs d'arbres. Andriy insinue en fait que le projet de Svidovets se fournira aux habitants une alternative pour travailler, car jusqu'à présent, Tchornatissa est l'un des nombreux endroits dans les Carpates où prolifèrent les coupes illégales de bois. La déforestation est l'un des drames incontrôlés qui sévit en Ukraine depuis des années. La couverture forestière n'est que de 15% du territoire national. Et c'est dans les montagnes boisées des Carpates que le phénomène est le plus intense. Pour les opposants à la station de ski Svidovets, les coupes illégales sont liées au projet. D'une part, elles préparent ici le terrain pour les travaux. D'autre part, elles sont contrôlées par des mafias locales impliquées aussi dans les investissements immobiliers. Que ce soit pour couper du bois ou pour s'octroyer des permis de construction, les militants les accusent d'opérer en toute impunité. Et en effet, il est facile de rencontrer les forestiers à l'œuvre dans les hauteurs. Ils ne se cachent pas, et s'ils ne parlent pas à des journalistes, ils n'ont pas peur de se montrer à des appareils photo. Pourtant, il est très facile de prouver que leur activité est illégale. Dmytro Karapchuk, un expert du WWF, utilise une application publique sur Internet pour vérifier le statut d'un des camions rencontrés sur le terrain.
Yes, so we go here on the Internet.
Il suffit d'aller sur le site de l'Institut de recensement électronique des coupes de bois. On peut vérifier si la plaque d'immatriculation est enregistrée sur le site. Alors, on regarde, 14-19, voilà, on dirait que c'est illégal. Ce camion avait une autorisation de transporter 14 mètres cubes de bois le 12 avril 2019, mais il n'a pas d'autorisation depuis.
L'impunité dont bénéficient les forestiers explique que le phénomène a pris des dimensions impressionnantes.
According to our estimation, near
Selon nos estimations, les coupes illégales représentent environ 1 million de mètres cubes de bois chaque année. C'est énorme. Cela représente au moins 100 millions de dollars qui disparaissent dans le marché noir.
Investi président en mai dernier, Volodymyr Zelensky a fait de la lutte contre les coupes illégales une priorité de son mandat. Et le gouverneur de région qu'il a nommé, Igor Bondarenko, promet des résultats.
Il y a un problème avec les coupes illégales contre lesquelles nous luttons. Je suis sûr que nous allons réussir à arrêter le phénomène dans un futur très proche.
Pour les Ukrainiens, c'est un discours bien connu, répété par toutes les administrations précédentes. Il n'a jamais stoppé la multiplication des coupes illégales. Tara Ganesh est une experte britannique du groupe Earthsight, à l'origine de rapports détaillés sur le phénomène. Elle a fait le déplacement à Kiev pour participer à l'édition ukrainienne de la Marche internationale pour le climat, le 20 septembre. Tara Ganesh explique pourquoi des décideurs politiques ne peuvent changer la situation sans procéder à une réforme de fond.
Nous avons étudié le problème pendant 2 ans et nous avons découvert que la plupart des coupes illégales se font sous la supervision d'institutions d'État parce que l'essentiel des forêts sont publiques. L'État est le plus gros utilisateur de bois. Notre conclusion, c'est que les documents liés à l'exploitation et à l'exportation du bois ne sont pas fiables. On appelle ça des coupes illégales légales.
Pour remédier à cela, elle appelle donc le gouvernement à prendre des mesures radicales.
Tant que l'agence des forêts n'est pas restructurée, elle continuera à souffrir d'un conflit d'intérêts. Ses responsables sont ceux qui doivent détecter les fraudes et gérer le processus d'exploitation et d'exportation. Mais ce sont aussi ceux qui profitent de la vente du bois.
Volodymyr Zelensky a initié un grand nettoyage des institutions d'État depuis son arrivée au pouvoir, mais l'équipe de l'Agence des forêts n'a pas été inquiétée pour l'instant. Elle continue à délivrer des certificats à l'exportation qui servent notamment à écouler le bois vers les États membres de l'Union européenne. Autriche, Italie, République tchèque sont parmi les plus gros consommateurs de bois ukrainien, pour l'essentiel coupé illégalement. La marche pour le climat est donc l'occasion d'associer ces problématiques. On retrouve dans le cortège Oreste Delsol, Valérie Pavlouk et les militants de Svidovets brandissant une pancarte appelant à sauver les forêts des Carpates. À travers cette marche, leur appel s'adresse à Volodymyr Zelensky et à son gouvernement pour trouver un équilibre entre développement économique et respect de l'environnement. Une équation jamais résolue jusqu'à présent en Ukraine qui engagera pourtant le pays pour les décennies à venir.
Les montagnes ukrainiennes à l'épreuve du développement économique sauvage, un grand reportage de Sébastien Gobert, réalisation Pierre Chaffonjon, à retrouver sur RFI.fr.
Yeah.